D'elle-même, sans secousse, la monarchie se fondait dans une dissolution rapide. Et on attaquait maintenant le poste du château d'eau pour délivrer 50 prisonniers qui n'y étaient pas. Frédéric s'arrêta forcément à l'entrée de la place. Des groupes en armes l'emplissaient. Des compagnies de la ligne occupaient les rues Saint-Thomas et Fromenteau. Une barrière énorme bouchait la rue de Valois. La fumée qui se balançait à sa crête s'entr'ouvrit. Des hommes couraient dessus en faisant de grands gestes. Ils disparurent. Puis la fusillade recommença. Le poste y répondait, sans qu'on vît personne à l'intérieur. Ses fenêtres, défendues par des volets de chêne, étaient percées de meurtrières. Et le monument avec ses deux étages, ses deux ailes, sa fontaine au premier et sa petite porte au milieu, commençait à se moucheter de taches blanches sous le heurt des balles. Son perron de trois marches restait vide. À côté de Frédéric, un homme en bonnet grec et portant une giberne par-dessus sa veste de tricot se disputait avec une femme coiffée d'un madras. Elle lui disait « Mais reviens donc, reviens donc !»« Laisse-moi tranquille !» répondait le mari. « Tu peux bien surveiller la loge toute seule. »« Citoyen, je vous le demande, est-ce juste ? J'ai fait mon devoir partout, en 1830, en 32, en 34, en 39. Aujourd'hui, on se bat. Il faut que je me batte. Va-t'en !» Et la portière finit par céder à ses remontrances et à celle d'un garde national près d'eux, quadragénaire dont la figure bonasse était ornée d'un collier de barbe blonde. Il chargeait son arme et tirait. Tout en conversant avec Frédéric, aussi tranquille au milieu de l'émeute qu'un horticulteur dans son jardin, un jeune garçon en serpillière le cajolait pour obtenir des capsules afin d'utiliser son fusil, une belle carabine de chasse que lui avait donnée un monsieur. « Empoigne dans mon dos, » dit le bourgeois, « et efface-toi, tu vas te faire tuer. » Les tambours battaient la charge. Des cris aigus, des hurrahs de triomphe s'élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas, fasciné d'ailleurs, et s'amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts étendus n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. Au milieu de la houle, par-dessus des têtes, on aperçut un vieillard en habit noir sur un cheval blanc à selle de velours. D'une main, il tenait un rameau vert, de l'autre un papier, et les secouait avec obstination. Enfin, désespérant de se faire entendre, il se retira. La troupe de ligne avait disparu et les municipaux restaient seuls à défendre le poste. Un flot d'intrépides se rua sur le perron. Ils s'abattirent, d'autres survinrent. Et la porte, ébranlée sous des coups de barre de fer, retentissait. Les municipaux ne cédaient pas, mais une calèche bourrée de foin et qui brûlait comme une torche géante fut traînée contre les murs. On apporta vite des fagots, de la paille, un baril d'esprit de vin. Le feu monta le long des pierres. L'édifice se mit à fumer partout comme un solfatare. Et de larges flammes, au sommet, entre les balustres de la terrasse, s'échappaient avec un bruit strident. Le premier étage du palais royal s'était peuplé de gardes nationaux. De toutes les fenêtres de la place, on tirait. Les balles sifflaient. L'eau de la fontaine crevée se mêlait avec le sang. Faisait des flaques par terre. On glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent en capote grise, couché la face dans le ruisseau. Des bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée. Les marchands de vin étaient ouverts. On allait de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait, cela faisait rire. Frédéric fut ébranlé par le choc d'un homme qui, une balle dans les reins, tomba sur son épaule en râlant. À ce coup, dirigé peut-être contre lui, il se sentit furieux. Il se jetait en avant quand un garde national l'arrêta. « C'est inutile. Le roi vient de partir. Ah, si vous ne me croyez pas, allez-y voir !» Une pareille assertion calma Frédéric. La place du Carrousel avait un aspect tranquille. L'hôtel de Nantes s'y dressait toujours solitairement. Et les maisons par derrière, le dôme du Louvre en face, la longue galerie de bois à droite, et le vague terrain qui ondulait jusqu'aux baraques des étalagistes, étaient comme noyés dans la couleur grise de l'air, où de loin un murmure semblait se confondre avec la brume, tandis qu'à l'autre bout de la place, un jour cru, tombant par un écartement des nuages sur la façade des Tuileries, découpait en blancheur toutes ses fenêtres. Il y avait près de l'Arc de Triomphe un cheval mort, étendu. Derrière les grilles, des groupes de 5 à 6 personnes causaient. Les portes du château étaient ouvertes. Les domestiques sur le seuil laissaient entrer. En bas, dans une petite salle, Des bols de café au lait étaient servis. Quelques-uns des curieux s'attablèrent en plaisantant. Les autres restaient debout, et parmi ceux-là, un cocher de fiacre. Il saisit à deux mains un bocal plein de sucre en poudre, jeta un regard inquiet de droite et de gauche, puis se mit à manger voracement, son nez plongeant dans le goulot. Au bas du grand escalier, un homme écrivait son nom sur un registre. Frédéric le reconnut par derrière. « Tiens, Hussonnet !»«
Mais oui, » répondit le bohème.
« Je m'introduis à la cour. Voilà une bonne farce, hein ?»«
Si nous montions ?»
Et ils arrivèrent dans la salle des maréchaux. Les portraits de ces illustres, sauf celui de Bugeaud percé au ventre, étaient tous intacts. Ils se trouvaient appuyés sur leurs sabres, un affût de canon derrière eux, et dans des attitudes formidables jurant avec la circonstance. Une grosse pendule marquait 1h20. Tout à coup, la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était le peuple. Il se précipita dans l'escalier, en secouant un flot vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours, comme un fleuve refoulé par une marée d'équinoxe, avec un long mugissement, sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit et le chant tomba. On n'entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La foule inoffensive se contentait de regarder, mais de temps à autre, un coude trop à l'étroit enfonçait une vitre. Ou bien un vase, une statuette, déroulait une console par terre. Les boiseries pressées craquaient. Tous les visages étaient rouges. La sueur en coulait à larges gouttes. Hussonnet fit cette remarque.
« Les héros ne sentent pas bon. »«
Ah, vous êtes agaçants, » reprit Frédéric. Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s'étendait au plafond un dais de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entrouverte, l'air hilar et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir à sa place.
« Quel mythe !» dit Hussonnet. « Voilà le peuple souverain !»
Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. Sa prolotte, comme il chaloupe. « Le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Qu'en canne-t-il ? On l'avait approché d'une fenêtre, et au milieu des sifflets, on le lança.
« Pauvre vieux !» dit Hussonnet, en le voyant tomber dans le jardin,
où il fut repris vivement pour être promené ensuite jusqu'à la Bastille et brûlé. Alors, une joie frénétique éclata, comme si, à la place du trône, un avenir de bonheur illimité avait paru. Et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacère les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets.